VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 1er novembre 2017, en direct de Washington, Idriss Assidoudia et Anne Albertson. Actualité oblige, nous commençons par l'attaque terroriste de New York.
New York, où au moins 8 personnes ont été tuées hier et une dizaine d'autres blessées, quand le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants dans le sud-ouest de Manhattan. Jean-Roger Bion fait le point.
Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lors d'une conférence, selon les informations dont nous disposons en ce moment, c'était un acte de terrorisme particulièrement lâche qui visait des civils innocents. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a parlé d'une attaque perpétrée par un loup solitaire, ajoutant que rien n'indique qu'elle faisait partie d'un plus vaste complot. Quant au chef de la police de New York, James O'Neill, il a affirmé que vers 15h05, heure locale, un homme au volant d'une camionnette louée auprès du magasin Home Depot a emprunté la piste cyclable, fauchant cyclistes et passants. Le véhicule a aussi percuté un bus de ramassage scolaire, blessant 2 adultes et 2 enfants. Le suspect a alors abandonné la camionnette, brandissant ce qui ressemblait à 2 armes à feu qui se sont révélées être un fusil à air comprimé et un fusil de paintball. Il a été atteint à l'estomac par la police et appréhendé par les forces de l'ordre. Il a subi une intervention chirurgicale et devrait survivre. Selon la police, le suspect aurait crié « Allahu Akbar, Dieu est grand » quand il est descendu de la camionnette. Mais interrogé à ce sujet, le chef de la police s'est contenté de répondre sans autre précision « Oui, il a fait une déclaration. » La police de New York a annoncé le renforcement du dispositif de sécurité à travers la ville par mesure de précaution. Le suspect serait, dit-on, un immigré ouzbek de 29 ans, appelé Seyfullo Saipov, entré aux États-Unis en 2010 et habitant à Tampa, en Floride. L'incident a eu lieu près du mémorial du World Trade Center, dans le sud-ouest de Manhattan.
Merci Jean-Roger. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a dit que le président Donald Trump a reçu un briefing sur l'incident et est tenu au courant des développements. « Nos pensées et nos prières », a-t-elle poursuivi, « vont vers tous ceux qui sont affectés ». Pour sa part, M. Trump a écrit dans un tweet « Nous ne devons pas permettre au groupe État islamique de revenir ou entrer dans notre pays après l'avoir vaincu au Moyen-Orient et ailleurs ». Assez. Auparavant, le président Trump avait qualifié l'homme de personne très malade et déséquilibrée.
Dans un autre tweet, le président Trump a annoncé hier soir avoir ordonné un renforcement du programme de vérification des étrangers voulant entrer aux États-Unis, programme qu'il a qualifié de déjà extrême. Être politiquement correct, c'est bien, mais pas pour ça, a-t-il ajouté. S'il se confirmait que le suspect était un sympathisant djihadiste, ce serait la première attaque islamiste sur le sol américain depuis qu'il a été élu à la Maison-Blanche, promettant plus de fermeté face à l'islamisme radical.
Plusieurs dirigeants européens, à commencer par le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May, qui ont connu plusieurs attentats sur leur sol, ont rapidement manifesté leur solidarité. Horrifiés par cette lâche attaque, mes pensées vont vers tous ceux qui ont été touchés. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme, a tweeté Madame May. J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis, a déclaré pour sa part Emmanuel Macron, ajoutant dans un tweet « Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, au Mali, au moins 6 morts dans une embuscade tendue au président de la Haute Cour de Justice, 5 soldats et le chauffeur civil d'Abdrahman Niang. L'embuscade a eu lieu entre Dia et Diafarabé dans la région de Mopti. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Bientôt une semaine que le président de la Haute Cour de Justice, non moins député à l'Assemblée nationale, était en mission au centre du Mali. Massina, Tenengou et Diafarabé ont été les étapes de sa mission. C'est à la fin de son séjour quand il révéla que son véhicule est tombé dans une embuscade. Des hommes armés sur leur moto ont ouvert le feu sur lui. Le chauffeur du député a été la première personne touchée. Selon nos sources, il n'a pas voulu s'arrêter. Entre-temps, Abdramane Niang a pu joindre le gouverneur de la région de Mopti et des responsables militaires. Le secours est parti de Kemasina et Mopti. Parmi les militaires qui sont venus à la rescousse du député, 5 sont morts. Son chauffeur aussi a perdu la vie. C'est le véhicule des militaires qui a sauté sur une mine. Abdramane Niang est sain et sauf, ainsi que son épouse et ses 2 gardes-corps. A signalé que l'embuscade contre le député Abdramane Niang, qui préside la Haute Cour de justice, s'est produite entre les localités de Dja et Djafarabé dans la région de Mopti, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, élection possible en juin 2018, mais sans Joseph Kabila à la tête du pays, c'est ce que soutient l'opposant Félix Tshisekedi. Le président du Rassemblement faisait à la presse le compte-rendu de ce que, selon lui, l'opposition a dit à Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, vendredi dernier à Kinshasa. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Oui à la tenue des élections en juin 2018, mais sans Joseph Kabila à la tête de la RDC, c'est ce qu'a déclaré mardi à la presse l'opposant Félix Tshisekedi. Le président des forces politiques et sociales acquises au changement est catégorique sur la question. La transition sans Kabila est du domaine du possible parce que c'est la volonté du peuple. Ce n'est pas une utopie, a-t-il souligné avant de poursuivre. Si Joseph Kabila s'accordait encore un an, que ferait-il de nouveau sous les ciels de la RDC qu'il n'a pu faire en 17 ans de règne? Sa mauvaise foi avérée, le peuple ne veut plus de lui. Moralité, transition sans Kabila, a précisé d'un ton ferme le fils d'Étienne Tshisekedi. Qui alors pour remplacer Kabila d'ici aux élections, lui demande un journaliste. Une personnalité désignée par consensus, répond-il. Le peuple instaurera un leadership à même de conduire le pays vers des élections, précise le chef de file du rassemblement, qui souligne par ailleurs à la question sur un troisième dialogue avec Joseph Kabila. Nous n'avons rien à y gagner, nous ne le cherchons pas. Nous ne voulons pas d'un troisième dialogue avec Kabila, à moins que ce ne soit pour discuter des conditions de son départ. Au même moment, se tenait le point de presse de la majorité présidentielle qui, par l'entremise de son porte-parole André Alain Atundu, a accusé Félix Tshisekedi de prendre des postures radicalistes avant d'appeler le peuple congolais à ne pas suivre, selon lui, les sirènes de mauvais augure dont l'objectif réel est de créer la violence et le chaos pour prendre le pouvoir en dehors des moyens démocratiques. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Nigeria, l'ex-président Goodluck Jonathan a réclamé 2,4 millions d'euros à l'ancien porte-parole de son parti pour accepter de témoigner dans un procès pour corruption. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Oliza Mitou, ancien porte-parole du Parti démocratique populaire, est accusé d'avoir reçu 400 millions de naira de Sambo Dezouki, ancien conseiller à la sécurité de Goodluck Jonathan. Les fonds détournés auraient servi, entre autres, à financer la campagne présidentielle de M. Jonathan en 2015. L'ex-porte-parole du PDP a affirmé que M. Jonathan a été mis au courant de ces versements. Ses avocats ont appelé l'ancien président et son conseiller à témoigner, mais ils ne se sont pas présentés à la justice. L'avocat de Goodluck Jonathan soutient que son client n'est pas la personne appropriée pour témoigner dans cette procédure. Il a ajouté que si le tribunal estime qu'il doit témoigner, Oliza Mitou devra payer 1 milliard de naira, environ 2,4 millions d'euros. Cette somme servirait à couvrir le coût de voyage de l'ancien président à Abuja, la logistique et le personnel de sécurité qui va l'accompagner. Le président Muhammadu Buhari a lancé une campagne de lutte contre la corruption. Ses détracteurs l'accusent de se focaliser sur les membres de l'ancien gouvernement.
Enfin, ici aux États-Unis, le président Donald Trump a dénigré un de ses anciens conseillers en politique étrangère, un jour après qu'il a été révélé que George Papadopoulos avait plaidé coupable de mensonges aux agents fédéraux et coopérait avec le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de l'année dernière. Pourtant, en mars 2016, M. Trump avait décrit en termes flatteurs M. Papadopoulos. Mais dans un tweet hier, le président américain a dit de ce dernier que très peu de gens connaissaient ce jeune volontaire de bas niveau appelé George, qui a déjà prouvé qu'il était un menteur enquêté sur les démocrates. M. Trump s'en est également pris aux médias pour leur couverture excessive de ce développement et de l'inculpation de son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, et du partenaire de ce dernier, Rick Gates, pour blanchiment d'argent et complot, en rapport avec leurs efforts de lobbying en faveur de l'ex-homme fort ukrainien Viktor Yanukovych. La campagne de M. Trump n'a pas été impliquée dans de telles accusations. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le groupe néerlandais Heineken veut doubler sa production de bière en Côte d'Ivoire d'ici l'année prochaine grâce à un investissement de 20 milliards de francs CFA. Le deuxième producteur mondial de bière tentera ainsi de concurrencer la compagnie française Castel sur ce marché en forte croissance. Au total, Heineken devrait avoir investi 100 milliards de francs CFA dans sa brasserie Brassivoire, inaugurée l'année dernière près d'Abidjan. La consommation de bière en Côte d'Ivoire, dont l'économie affiche la plus forte croissance du continent, a progressé depuis la fin de la crise politique en 2011 et Castel domine le marché. L'Algérie va démarrer la production de gaz naturel sur son projet de Regan d'ici à la fin de l'année. Le projet est évalué à environ 1 milliard de dollars et devrait fournir jusqu'à 8 millions de mètres cubes par an. Regan a pris 3 mois de retard. Touat, un autre projet gazier qui devait débuter en février dernier, ne démarrera qu'au premier trimestre de l'an prochain à cause des manquements dans la gestion. Le producteur sud-africain de métaux précieux Sibanye-Stillwater a supprimé plus de 2000 emplois dans sa mine de Cook, dont les opérations ont été suspendues selon le syndicat national des mineurs. En octobre dernier, le groupe avait proposé un plan de restructuration pour tenter de conserver plusieurs de ces mines menacées de fermeture.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Feu d'artifice en Ligue des Champions hier soir au Parc des Princes.
Et oui, la victoire facile 5-0 du Paris Saint-Germain à domicile contre Anderlecht. Triplé de Kourouaza, Verratti et Neymar, buteur. Les Parisiens entrent dans l'histoire de la Ligue des Champions. Première équipe à inscrire 17 buts en 4 matchs de poule. Paris se qualifie pour les 8e de finale, tout comme le Bayern Munich, vainqueur à Glasgow 2-1. Face au Benfica Lisbonne, Manchester United se qualifie 2-0 à Old Trafford. Le CSKA Moscou se relance après sa victoire en Suisse 2-1 sur la pelouse du FC Bâle. L'AS Rome devant son public a fait un pas vers la qualification en battant 3-0 Chelsea. L'Atlético Madrid incapable de battre à domicile le petit poussé Karabakh. Un but partout. Enfin dans le groupe des statu quo, avec 2 matchs nuls 0-0 en Grèce entre le Barça et l'Olympiakos, un partout entre le Sporting Portugal et la Juventus Turin.
La suite de la Ligue des Champions, c'est ce soir.
Oui, dans le groupe E, après la gifle historique infligée à Maribor par Liverpool, les Reds accueillent à Anfield les Slovènes. Le FC Séville fera face au Spartak Moscou. Dans le groupe F, faux pas interdit pour Naples à domicile contre Manchester United. Le Shakhtar Donetsk face au Feyenoord Rotterdam, dernier avec 0 points. Dans le groupe G à Istanbul, le Beşiktaş peut éliminer définitivement Monaco en 4 victoires. Porto accueille les Allemands de Leipzig. Dans le groupe H, le choc en Angleterre entre les deux leaders de la poule avec 7 points, Tottenham contre le Real Madrid. Et puis Dortmund accueille l'Apoel Nicosie.
Le stade envahi, Al Ahly annule son entraînement.
Oui, le club égyptien d'Al Ahly a été contraint d'annuler son entraînement hier en raison de la présence de milliers de ses supporters dans le stade. Et ce, avant la finale retour de la Ligue des Champions. Des milliers de supporters ont envahi les gradins. Certains ont même grimpé sur les grilles aux abords de la pelouse, arborant le fameux maillot rouge du géant égyptien. On rappelle qu'Al Ahly est le club le plus titré d'Afrique, le club égyptien qui s'envole ce mercredi pour le Maroc, où il affronte le Wydad de Casablanca samedi lors du match retour de la C1. Accroché un partout chez eux à l'aller, les Diables Rouges sont en quête d'un 9e titre de champion d'Afrique, le premier depuis 2013.
Rabah Madjer donne sa première liste avec l'Algérie.
Eh oui, et cette première liste de Rabah Madjer n'est pas passée inaperçue. Les Fennecs, on le rappelle, ne sont pas qualifiés pour le Mondial 2018. Ils auront quand même un match pour l'honneur à jouer à Constantine le 10 novembre face au Nigeria et un match à amical à Alger le 14 novembre face à la Centrafrique. Et pour ces deux matchs, Rabah Madjer a convoqué Riyad Mahrez, Islam Slimani et Nabil Bentaleb, qui avaient été écartés le mois dernier. Il se passe en revanche des services de Feghouli et de Mboli pour affronter ces deux équipes. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Sacramento Kings et Indiana Pacers, 83-101. Phoenix Suns et Brooklyn Nets, 122-114. Oklahoma City Thunder et Milwaukee Bucks, 110-91. Detroit Pistons et Los Angeles Lakers, 93-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un collectif d'intellectuels de la diaspora et de l'intérieur demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'aider à mettre sur pied une transition sans la classe politique congolaise actuelle. Les animateurs de cette transition devraient, d'après le collectif, préparer les élections sans y participer. Eddie Sango a joint l'un des signataires de la lettre, le docteur Miatudila Malonga.
Nous avons proposé au Conseil de sécurité de soutenir la mise en place d'un conseil de transition qui aurait deux grandes fonctions. La première fonction étant l'organisation des élections transparentes et apaisées par des gens qui ne vont pas se présenter aux élections qu'ils organisent. Cette période de transition doit aussi servir à mettre les premières fondations des institutions qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'un État moderne.
Apparemment, vous n'êtes ni parti politique, ni association connue. Mais à quel titre faites-vous ces propositions au Conseil de sécurité?
En tant que citoyen de la République démocratique du Congo, parce que l'article 64 donne droit à tout Congolais de travailler pour aider son pays. On a fait un groupe de citoyens congolais apolitiques et nous avons pensé que nous avions le devoir et le droit d'aider notre pays à sortir de l'impasse.
Vous n'êtes pas les seuls à faire de telles propositions. Il y a par exemple les rassemblements par la bouche de M. Félix Tshisekedi qui parle d'une transition mais sans Kabila, mais il y a aussi les CCT et les autres qui vous demandent autant.
Pour sortir de cette impasse, il faut une transition sans Kabila. Mais nous disons c'est une transition sans les politiciens. On n'a rien pour ou contre Kabila, ça ne doit pas être personnalisé. Mais nous disons simplement qu'il nous faut une transition apolitique. Et je crois que le nom qui vient de plus en plus et que nous entendons de plus en plus, c'est par exemple le docteur Mukwege, le professeur Mbata et certains membres de la commission épiscopale. Donc nous n'avons rien contre ces gens-là-bas. Nous appuyons aussi longtemps que ils rencontrent l'assentiment de beaucoup de Congolais du terrain.
Vous souhaitez que les institutions soient dirigées par des technocrates, mais la commission électorale nationale indépendante est dirigée par un technocrate, Corneille Nanga.
Dans les faits, nous voyons que notre frère Nanga n'a pas les mains libres. Nos politiciens se sont arrangés pour prendre le pays en otage. On le sent dans la façon dont la Cour suprême se comporte. Et nous avons les contacts avec certains des membres de ces institutions. Ils se plaignent. Ils n'ont pas les mains libres. En fait, ils ne sont pas indépendants.
C'était le docteur Miatudila Malonga, membre du collectif d'intellectuels congolais de la diaspora et de l'intérieur, signataire de la lettre adressée au Conseil de sécurité.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, plus de 1300 ex-éléments de la secte Boko Haram, tous originaires de la région du lac, ont quitté le mouvement djihadiste pour faire la paix. Notre correspondant André Kotma Djingar s'est rendu la semaine dernière dans cette région. Son reportage.
Après plusieurs mois de cantonnement dans un camp de transit à Bagassola, ces repentis de Boko Haram ont été confiés à leurs chefs des communautés respectives. Des sensibilisations ont été faites auprès de la population locale pour ne pas les stigmatiser, mais plutôt les accepter dans la communauté comme leurs frères. À Yakoua, un des villages abritant une partie de ces repentis situé à une dizaine de kilomètres de Bol, chef-lieu de la région du lac où nous sommes rendus, quelques repentis expliquent comment ils ont été enrôlés dans cette secte.
Je vivais avec mon mari quand les Boko Haram sont venus dans notre village. Ils ont tué les gens et brûlé toutes nos maisons. Ils nous ont dit que si nous ne partons pas avec eux, ils vont nous tuer aussi. C'est ainsi qu'on a décidé de partir avec eux en abandonnant nos deux enfants. À chaque fois, on attaque un village et quand les habitants fuient, on ramasse leurs provisions et on se partage pour manger. Chemin faisant, mon mari a été tué et ils veulent me donner un autre mari et j'ai refusé. Ils m'ont menacé et j'ai fui pour venir ici après avoir combattu pendant 3 ans avec les Boko Haram.
On m'a enrôlé de force. Tous les jours, durant les 3 ans que j'ai mis avec eux, ils nous ont appris le maniement des armes, par exemple comment faire exploser une bombe. Maintenant que j'ai retrouvé mes parents, je ne vais plus repartir.
Un agent humanitaire qui requiert l'anonymat a déclaré à la VOA Afrique que les autorités locales font de la gestion de ces repentis leur fonds de commerce.
La meilleure approche, c'est de ne pas les considérer comme des repentis à part dans les actions de développement, mais c'est de le mettre les actions de développement ensemble. En voulant les aider, vous créez quelque chose ici. Le petit commerçant qui n'a pas bougé avec son moulin ici, vous venez avec un moulin sophistiqué, vous donnez aux repentis, mais vous avez cassé son marché. C'est pas parce qu'on les a vus à la télé qu'ils souffrent qu'il faut donner des moulins. C'est un sérieux problème de communication. À qui m'adresser en cas de problème en tant que repenti? Parce que si tu dis à l'autre, il va aller te trahir. Du moment où les responsables, c'est devenu un fonds de commerce. Tous ceux qui sont dans les pirogues, là, c'est des agents de renseignement.
Pour le gouverneur de la région du lac Adom Forte, il n'y a aucun problème dans la gestion de ces repentis.
À ma connaissance, il n'y a aucun problème. Depuis qu'on a intégré dans des familles, il y a au moins 2 fois déjà pris au niveau des femmes qui ont été faites. Là, nous sommes en discussion pour essayer de voir comment les partenaires peuvent nous aider afin que ces gens puissent se prendre en charge. Leur avenir dépend de la manière qu'on arrive à les responsabiliser pour qu'ils puissent prendre conscience.
Selon les indiscrétions, beaucoup sont repartis puisqu'ils sont fatigués d'attendre la promesse de leur réinsertion qui tarde à se concrétiser. André Koduma Dingar, de retour de Bol dans la région du lac N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le leader de l'opposition kényane, Raila Odinga, a promis de ne pas en rester là avec ce qu'il a qualifié de parodie d'élection du 26 octobre, scrutin qu'il a boycotté et qui a abouti à la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Ibrahim Khan, directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
Raila est dans une situation assez difficile. Il a boycotté l'élection. Le niveau de participation a été pratiquement l'un des plus bas de l'histoire du Kenya. Et donc, politiquement, il a gagné cette élection. Mais malheureusement, il n'est pas à la tête du pays et c'est son opposant, le président Uhuru, qui va continuer à régner sur ce pays pendant les 5 prochaines années. Mais le problème qui se pose maintenant à Raila, gagner politiquement sans pour autant diriger le pays, c'est presque une chose difficile. D'autant plus que Raila est pratiquement éliminé de la course aux élections pour le futur. Les prochaines élections auront lieu en 2022. Il ne pourra pas y participer. Je pense que ce qui se pose aujourd'hui, c'est comment Raila peut contribuer à vraiment faire en sorte qu'on ait un système d'élection qui soit vraiment à l'abri de tout reproche.
Justement, il a annoncé ce qu'il appelle une assemblée du peuple. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Faut-il être confiant? Faut-il être inquiet?
Bon, je ne pense pas qu'il y a lieu d'être inquiet parce que ni lui, ni Uhuru ne voudraient être de ceux qui ont complètement détruit le Kenya. Mais je pense que Raila, plus qu'Uhuru, a vraiment intérêt à inscrire son nom dans l'histoire du Kenya comme étant parmi ceux qui ont vraiment fait évoluer ce pays vers la démocratie. Vous savez que le Kenya est un pays où il y a une forte polarisation sur l'ethnie, il y a une forte division régionale. Alors, si Raila peut, pendant pendant ces années à venir, peser sur le cours des événements et faire en sorte que la voix de tout Kenyan compte dans le pays, et faire en sorte que dans ce pays, on ne continue plus à penser ethnie, mais à penser nation, je pense qu'il aura vraiment contribué à faire avancer la démocratie dans son pays. S'il essaie d'utiliser le sentiment des gens, s'il essaie de peser sur la fibre ethnique, il risque de complètement dérailler tout le système qu'on a dans le pays. Et là, on entre dans l'inconnu.
Est-il réaliste d'imaginer un troisième scrutin en bonne et due forme pour mettre un terme à cette crise?
Mais cela dépend en grande partie de l'actuel président, parce que l'actuel président est aussi confronté à un problème de légitimité. Légalement, il est président, mais la légitimité du président est vraiment en question. Il a été élu avec 35% des voix. Lui-même l'a dit après l'élection qu'il va appeler Raila pour voir ce qu'ensemble il peut faire. Cette expérience-là est tellement douloureuse pour chacune des parties, mais l'opposition étant dans une position aussi forte peut contraindre le pouvoir à faire des concessions qu'il n'aurait pas voulu faire il y a 3 ou 4 mois. Et pour moi, c'est là véritablement l'enjeu des négociations de ces semaines et de ces mois à venir.
Ibrahim Akane de l'ONG panafricaine Open Society Foundation, joint à Accra au Ghana. Au Burkina Faso, la mémoire des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 a été saluée hier matin à Ouagadougou lors d'une cérémonie. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Le dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs a été l'acte majeur de cette commémoration de l'insurrection populaire pliée en une petite heure. Bien avant, sur le coup de 10 heures en temps universel, c'est la sirène communale qui emplissait l'air pour marquer l'événement. Au pied du monument aux héros nationaux, les plus hautes autorités du pays, le président du Faso Roch Kabore en tête, et une petite foule venue marquer son soutien pour un devoir de souvenir, estime Éric Bougoma, ministre en charge des infrastructures.
Il y a des événements que ni le temps qui passe, ni les conjonctures ne peuvent effacer. Il y a des événements comme ce 31 octobre 2014 où le peuple burkinabé déterminé a mis fin à un pouvoir que nul ne pensait pouvoir être ébranlé aussi rapidement. Et donc, nous sommes venus ce matin pour nous incliner devant la mémoire des martyrs, nous rappeler que un peuple déterminé comme le peuple burkinabé l'a été, sort toujours vainqueur de la dictature et de l'arbitraire.
Les familles des victimes également présentes continuent d'attendre le retour des promesses faites, rappelle le président de l'Union des familles des martyrs, Paulabou Peka Victor.
Nous attendons toujours justice. Nous constatons que jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau. Bon, l'État aussi a dit qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, mais ces mesures ne sont pas le gouvernement actuel qui l'a pris. Ce sont des mesures qui ont été prises pendant la transition. Mais je vous dis, je vous le confirme que ce sont des mesures qui existent sur papier pour l'instant. Nous avons un pourparler avec l'État pour qu'au moins qu'il prenne des mesures quand même idoines qui va amener les orphelins et les veuves à se soulager.
Le président de l'association des blessés embouche la même trompette. Il y a des blessés qui attendent, se plaindra Manu Ouedraogo.
Nous ne sommes pas en train de mendier, nous disons seulement faites la vérité, faites la justice pour que les choses aillent mieux. C'est tout ce qu'on demande, parce que ça fait 3 ans quand même.
Pour le ministre Éric Bougouma, les choses ne devraient pas tarder à rentrer dans l'ordre.
De ce que je sais, en tant que membre du gouvernement, les décisions qui ont été prises ont été mises en œuvre. Bien entendu, il y a quelques cas résiduels qui vont certainement connaître des solutions avec le gouvernement actuel.
Des représentants des mouvements en pointe de l'insurrection populaire ont estimé être les grands oubliés du jour, affirme la présidente du cadre national de concertation des OEC, Safetou Lopez Zongo a du mal à cacher sa déception.
Si vous avez remarqué ce matin, ils ont cité tout le monde, sauf la société civile. Ça veut dire que déjà, ils ont oublié tout le travail que la société civile a fait. Ils ont oublié que tous ceux qui sont tombés là, ce sont nos camarades. C'est vrai qu'au niveau de la justice, il y a des jeunes magistrats qui veulent en tout cas le changement. Mais en ce moment, beaucoup de magistrats travaillent pour le compte des individus.
Une véritable justice pour les martyrs et la résolution des problèmes des blessés de l'insurrection populaire semblent être les conditions sine qua non pour éviter des lendemains nuageux pour le gouvernement Paul Kaba Thiéma II. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, analyse sur le dossier G5 Sahel.
Lundi, Washington a annoncé l'octroi d'une aide bilatérale de 60 millions de dollars à cette force antiterroriste africaine. Mais les États-Unis refusent toujours d'accéder à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des 5 pays du Sahel, de la France et d'une majorité du Conseil de sécurité d'autoriser un soutien de l'ONU. Y a-t-il une inflexion dans la position américaine ? Comment les États africains peuvent-ils venir à bout de la menace terroriste ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abderrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.